Je vous propose de lire deux textes, trois textes, pardon, dans le Nouveau Testament. Le premier texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après avoir vu que l'eau était agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Un autre texte dans les Actes des Apôtres, cette fois-ci au chapitre 16 et au verset 14, et nous lirons deux versets. L'une, alors il parlait de Lydie, une marchande de pourpre. Hein. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle ait été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Et enfin, un dernier verset dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. On n'est pas à Noël, mais ce texte est toujours valable tous les jours de l'année. « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Cette histoire de Jésus au pied de la piscine de Bethesda, ce passage est connu et il est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. La solitude. On vit à une époque où jamais on a eu autant de moyens de communication. Internet, les téléphones, tout. On n'a jamais eu autant de moyens de communication, des réseaux sociaux où on peut aussi communiquer. Et pourtant, toujours de gens aussi seuls. Et on peut avoir autant d'amis sur Facebook, mais ils ne resteront que virtuels. Et on se vante souvent, on entend des politiques ou des hommes connus, ou des gens nous dire « j'ai tant d'amis sur Facebook, c'est super ». Mais tout ça, c'est complètement virtuel. Ce verset de la Bible que j'ai voulu relire par rapport à la naissance de Jésus, je vais vous le partager. À mon travail, on a eu l'occasion de fêter, bien sûr, Noël, là où j'étais, avec des personnes âgées, puisque j'ai travaillé à l'époque en EHPAD, dans ce moment-là, et les familles étaient invitées pour venir voir leurs proches, leurs parents. Donc tout était installé, des belles petites tables, bien décorées. Heureux de voir les familles arriver, évidemment, distanciation sociale obligeante, bien sûr, pour respecter les règles. Mais tout le monde a pu venir. Et puis, comme il y avait quand même beaucoup de monde, on m'avait demandé de venir travailler aussi ce jour-là. Et je suis arrivé, j'ai vu une belle salle, très grande salle, toute bien décorée, avec des gens. Et puis mon regard s'est posé sur des personnes seules. Et des gens qui sont seuls et pourtant qui avaient de la famille. Une dame m'a dit avec un sourire triste, elle m'a dit, je suis content que vous soyez là, je suis content de tout ce que vous avez fait, mais elle me dit, je suis seule. Et cette femme avait 5 enfants et plein de petits-enfants. Et personne qui venait la voir. Et il m'est venu ce verset en regardant ces gens qui étaient seuls à leur table. On a essayé de leur apporter beaucoup de réconfort, beaucoup d'affection. On a mangé avec eux, avec certains, et pour ne pas qu'ils soient seuls. Et ce verset m'est revenu. Elle l'emmaillota, la coucha dans une crèche, et c'est ce passage qui m'est revenu à l'esprit, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Eh bien, ces gens-là étaient seuls parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, dans le cœur de leur famille. Quand on reçoit Jésus dans son cœur, on a de la place pour les autres. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand on reçoit Jésus dans son cœur, on donne aux autres, et on a du temps pour donner aux autres, et on pense aux autres, et on a de l'empathie, et on a de l'affection. Et c'était vraiment, je vous assure, triste de voir ces choses. C'est la réalité de la vie, c'est comme ça, c'est partout pareil. Et je voudrais revenir à notre texte où cet homme paralytique, paralysé depuis donc 38 ans, où il est dit que sous ses portiques, avec lui, était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. C'est-à-dire des gens qui étaient malades. Une aide-soignante à domicile. Et ces gens donc étaient, nous dit la Bible, malades. Et ce paralytique était malade depuis 38 ans. Et depuis 38 ans, il n'y avait pas eu une seule personne qui l'ait aidé à descendre dans la piscine. J'ai envie de dire, c'est révélateur de notre monde, du monde dans lequel nous vivons. On peut passer 38 ans à côté de quelqu'un sans se douter que cette personne est dans une détresse profonde. Je disais à quelqu'un dernièrement, on a coutume de dire bonjour quand on se voit. Et puis, qui va derrière, bonjour, comment ça va? Alors il y a deux réponses. Il y a ça va bien, ou alors ben non, ça va pas. Et des fois, on a envie de se dire pourquoi j'ai demandé comment ça va? Parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre que ça va pas. Parce que ça va pas, ça veut dire qu'il va falloir que je l'écoute. Forcément. Est-ce que j'ai envie d'écouter ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai envie de prendre du temps avec une personne qui me dit, bah, écoute, c'est aujourd'hui, non, ça ne va pas? Est-ce que j'ai envie de l'écouter, de lui apporter quelque chose, de la réconforter? Et cet homme, qui était donc paralysé sur son lit, n'a pas eu une personne pour lui dire, pour lui parler, pour l'aider, mais surtout, cet homme, en fait, était seul, comme tous ceux qui l'entouraient. Et nous voyons que Jésus est venu. Et la question de Jésus est quand même assez surprenante. Il lui dit, veux-tu être guéri? Vous imaginez quelqu'un qui arrive à l'hôpital, qui est malade, le médecin lui dit, est-ce que vous voulez être guéri? Il dit, oui, tout évident, si je suis là, c'est que j'espère être guéri. La question serait quand même un peu surprenante. Mais elle n'est pas surprenante de la part de Jésus. Parce que nous pouvons entendre la parole de Dieu, mais est-ce que nous avons envie d'être guéris? J'ai lu ce texte de Lydie, qui était marchande de pourpre. Elle n'était pas pauvre, hein, par contre. Lydie, marchande de pourpre, à Thyatire, elle n'était pas pauvre. Elle n'était pas paralytique, elle n'était pas handicapée, elle vivait très bien. Et c'était certainement une personne très riche, parce que pour vendre des manteaux en pourpre, ça s'adressait qu'à une élite, à des gens qui étaient très riches. Donc cette femme était très riche. Et on voit que Dieu donc s'adresse à tout le monde. Et il est dit, le Seigneur ouvrit le cœur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Jésus pose cette question, est-ce que tu veux être guéri? Et qu'est-ce qu'il répond le paralytique? Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est-à-dire qu'il ne répond pas tout de suite, oui, je vais être guéri. Vous savez, des fois on entend la parole de Dieu et il y a une parabole que je relisais dernièrement, la parabole du semeur. Alors vous savez, c'est donc le semeur qui ensème son champ. Il y a du grain qui tombe un petit peu partout, à droite, à gauche, dans les ronces, dans les rochers. Il y en a quand même qui tombent dans la terre, heureusement pour lui. Et puis, ce qui est dans les ronces, ben, ça pousse, hein, bien sûr, mais c'est le symbole de ce qui va étouffer, en quelque sorte, la parole de Dieu. Pas seulement les soucis de la vie, mais l'agitation, on a plein de choses à faire, on n'a pas toujours le temps de penser à ça. Ça tombe sur les rochers. Un rocher, ça va pousser très vite. Vous savez, quand on met des petites graines dans des tout petits godets, là, vous savez, ça pousse très très vite. Et puis si on oublie de les arroser, ben, ça meurt très vite aussi. Et c'est ce qui se passe. Et puis, il y a du grain qui tombe en pleine terre. Et donc, ce grain, ben, il va produire. Alors, nous, on réfléchit, on est très cartésien, vous savez, on aime bien que chaque chose soit dans des petites boîtes bien rangées, très cartésien, et on se dit, mais c'est pas possible tout ça. Vous imaginez, quelqu'un, il va balancer de la graine à droite, à gauche, vous vous rendez compte le prix que ça coûtait à l'époque? Oui. Et c'est une parabole. C'est-à-dire, pourquoi Jésus parlait en parabole? C'était pour nous faire comprendre, passer un message. Mais nous, on réfléchit d'une manière cartésienne. Et quand la graine tombe, et que Jésus nous enseigne, nous dit que cette graine a produit énormément de fruits, on dit, mais c'est pas possible, à cette époque, jamais aucun grain n'aurait pu produire autant de grains pour du blé ou autre semence. Et on dit, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, ce sera impossible. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que Jésus vous a enseigné par là? C'est pas de savoir si l'autre il a jeté son grain à droite à gauche et qu'à cette époque-là ça pouvait pas pousser comme ça ou je ne sais pas quoi. Non. Qu'est-ce que Dieu vous laisse vous enseigner? C'est que quand cette graine tombe dans la terre, c'est-à-dire sous-entendu dans le cœur d'un homme, préparé, ouvert à la parole de Dieu, alors là il va produire une richesse. Une richesse comme personne ne peut l'imaginer. Parce que Dieu nous bénit largement au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et quand Jésus dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Et qui lui répond, mais j'ai personne pour m'aider. Eh oui. Parce que si cet homme attend encore des hommes ou des femmes pour l'aider, eh bien il pourra attendre encore longtemps. Parce que qu'est-ce que dit Dieu dans la Bible? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Parce que vous savez, quand on s'accroche comme ça et on espère de l'aide, on est souvent déçu. Très souvent déçu. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Parce que Jésus ne nous force jamais. Pourquoi il lui pose la question? Pourquoi cette question peut paraître absurde? Elle n'est pas du tout absurde. Jésus pose la question, est-ce que ce matin, tu veux être guéri? Or, il n'y a pas que le paralytique au sens physique du terme. On peut être aussi paralysé dans la vie. On peut être aveugle, on peut être boiteux, on peut être aussi paralysé, comme je l'ai dit. Pourquoi? Paralysé parce qu'on n'a plus envie d'avancer, parce que la vie nous a cassés, parce qu'on est déçu, parce qu'on a peut-être eu un deuil dans la famille, parce qu'on a perdu son travail et qu'on n'arrive pas à se raccrocher, et que tout d'un coup on a l'impression que le ressort il est cassé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au fond, les hommes, vous savez, souvent, très souvent, malheureusement, sont limités dans leur aide. Veux-tu être guéri? Est-ce que ce matin, peut-être que je suis pareil, paralysé, boiteux? Peut-être que je suis fatigué de la vie, fatigué des épreuves, mais Jésus me dit, veux-tu être guéri? Et Jésus lui donne cet ordre, ben, lève-toi et marche. C'est-à-dire, crois ma parole, crois ce que je te dis, reçois ma parole, reçois la parole de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu. Et cet homme, effectivement, a été guéri. Pourquoi il s'est levé? Pourquoi il a marché? Simplement. Bon, on dira, oui, mais c'est un miracle. Non. Pas seulement qu'un miracle. Parce que cet homme a cru la parole de Dieu. Parce que cet homme a reçu la parole de Dieu, il a reçu le pardon, il a reçu la vie, il a reçu la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi cet homme s'est levé, voilà pourquoi cet homme a été guéri. Parce que j'ai cru. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de mouvements qui promettent monts et merveilles. Et plus la détresse de l'homme est présente sur terre, plus il y a de la détresse, plus il y a de la solitude, de l'inquiétude. Et plus souvent, vous avez des mouvements comme ça qui se lèvent et qui annoncent un peu tout et n'importe quoi. Dieu bénit tout le monde et Dieu accueille tout le monde. Tout le monde, sans distinction. Et quand il était dit qu'un grand nombre de malades aveugles, boiteux, paralytiques étaient couchés et attendaient le mouvement de l'eau, ça veut dire que Dieu s'adresse à tout le monde, à tous. Et j'ai parlé de Lydie, cette femme qui était riche. Pour elle aussi, la parole de Dieu était valable. Lydie avait besoin de la parole de Dieu, besoin d'entendre la parole de Dieu et d'ouvrir son cœur. Et ce n'était pas ses richesses qui pouvaient la combler. Dieu s'adresse à tout le monde. Un jour, j'ai une dame qui m'a raconté cette anecdote assez drôle, protestante à Strasbourg, et qui avait reçu des gens qui font du porte-à-porte, je tairai le nom, qui sont toujours deux par deux, et qui, en plus de la parole de Dieu, lui amenaient plein de lectures à lire. Et il fallait absolument les lire, et en lui disant que cette femme pouvait avoir la chance de faire partie des élus. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on faisait des autres, mais il y avait 144 000 élus, lui avait-il dit. 144 000. Ça ne fait pas beaucoup. Et on ne sait pas pourquoi, comment c'était choisi, on ne sait pas comment ça se passait, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on faisait des autres. C'est totalement l'inverse de Dieu qui accueille tout le monde. Et cette dame leur a simplement répondu avec beaucoup d'humour, qui est un petit peu forte. Elle leur a dit, vous savez, si vous avez que 144 000 places, et moi qui prends déjà la place de deux personnes, ce n'est vraiment pas intéressant pour vous. Non, Dieu n'agit pas comme ça, vous savez. Dieu ne donne pas un quota, un nombre. Dieu accueille tout le monde. Et ce matin, Dieu nous accueille. Dieu nous parle. Dieu veut nous bénir. Dieu veut parler à notre cœur. Et Dieu veut nous guérir. C'est la parole de Dieu. C'est la véritable parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir ce matin. Et quand cet homme donc s'est levé, a été guéri, eh bien c'est un témoignage. Le témoignage vivant. De la bénédiction de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce matin, ce que je voudrais vraiment que nous gardions, c'est vraiment que pour chacun de nous ce matin, personne ne se prive de cette grâce, de cette parole de guérison, de cette parole d'encouragement, que personne ne se prive de la parole de Dieu dans son cœur, et que chacun d'entre nous soyons bénis, que nous recevions cette parole, que nous soyons richement bénis ce matin, et que Dieu nous accorde vraiment la guérison de tous nos maux, de toutes nos détresses, et nous donne vraiment cette bénédiction large et riche pour chacun. Amen.